Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Dernière édition de la semaine, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi dans le JDA, c'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer, c'est vous qui faites le sommaire. Le sommaire, le voici notamment, voici l'ordre des sujets, hein. Nous commencerons par parler de l'actualité ivoirienne avec notamment ce scrutin présidentiel qui s'annonce à haut risque. Nous reviendrons aussi sur la situation au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a pu rejoindre sa résidence jeudi. Nous parlerons également du football avec le cas Messi qui veut quitter le Barça, mais aussi le rejet de la candidature de Didier Drogba. Enfin, nous reviendrons également sur la situation aux États-Unis et ce racisme qui risque d'être un enjeu essentiel de la prochaine élection. Pour participer, 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Mais d'abord, comme de tradition, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter quelques-uns de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Moi, j'aimerais juste parler du voyage de Macky Sall en France ici pour dénoncer, franchement, une fois de plus, la docilité à laquelle fait notre président, surtout est-africaine, vers la France. Parce que moi, je peux pas comprendre, même avec la crise malienne, ils ont même pas pu se rencontrer. Pourtant, c'est une crise, vraiment, tout le monde sait que c'est une grave crise. Ils n'ont pas pu se rencontrer, ils ont fait des vidéoconférences. Ils ne se sont pas déplacés. Mais Macky Sall, en pleine pandémie, se lève, laisse les Sénégalais pour venir en France rencontrer le secteur privé français. Au lieu de travailler, de tout faire pour donner de développer les entreprises sénégalaises, non, il vient encore à Paris pour rencontrer le secteur privé français pour leur donner encore des marchés au Sénégal.
Je voudrais tout simplement parler des jeunes dont on appelle les microbes en Côte d'Ivoire. Ces jeunes-là qu'on accuse d'une milice privée de la cause de M. Ouattara ou du gouvernement de M. Ouattara. Mais moi, je dirais tout simplement que non, ce n'est pas une milice. Ce sont des jeunes qui ont été délaissés depuis des générations, depuis de gouvernement en gouvernement. Depuis M. Laurent Gbagbo, depuis M. Conan Bédié, quand il était chef de l'État et partout, ce sont des jeunes qui ont été délaissés et qu'on appelle les microbes qui survivent comme ça là. D'abord, M. Ouattara ne veut pas entendre parler de ce nom de microbes, mais il les appelle des jeunes désœuvrés.
En Côte d'Ivoire, la FIF est gérée comme une mafia. C'est pourquoi la candidature de Didier Drogba a été rejetée. Je ne veux pas qu'ils viennent révéler les choses cachées à la FIF.
Didier Deschamps a fait sa liste de 23 joueurs de l'équipe de France qui vont jouer la Ligue des Nations. Et parmi ces joueurs-là qu'il a appelés, il y a le retour de Adrien Rabiot. Moi, je ne comprends pas. Comment il se fait-il que Adrien Rabiot, qui avait boudé, carrément claqué la porte, je dirais, parce qu'il n'était pas d'accord qu'il soit réserviste, il est parti. Sa maman a même traité Noël de Grec, le patron de la Fédération française de football, de menteur. Et là, il rappelle Adrien Rabiot qu'il rejoigne encore l'équipe de France. Et Karim Benzema, qui était innocent, puisque la justice l'avait innocenté, puisqu'il n'y a aucune charge contre lui, sur l'affaire de Sestev avec Mathieu Valbuena, jamais on l'a rappelé. Donc ça, c'est juste une... Didier Deschamps a prouvé carrément que non, il est raciste. Et c'est vrai que donc les propos de Karim Benzema n'avaient pas tapé à côté, puisqu'il avait dit que non, Didier Deschamps avait cédé une partie des racistes qu'il avait fait céder pour qu'ils prennent des décisions contre lui. Mais c'est vrai, finalement.
Africa Radio, moi j'appelle aux militaires maliens qui sont livrés Ibeka aujourd'hui, jeudi. Vraiment, c'est triste pour notre pays. Quelqu'un qui a détourné des milliards, c'est qu'on appelle ça crime économique. Après, c'est haute trahison. Mali, on a voté pour lui. Il a juré, le peuple malien ne va pas nous trahir. Il nous a trahi, bouffé tout l'argent. Il a fait tout le mal pour le mal. Depuis qu'il est là, 7 ans, il ne fait que du mal. Tous les jours, il y a des gens qui meurent sur la route à cause de lui. Il n'a pas fait de route.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. On débute sans plus tarder cette libre antenne du journal des auditeurs. Dans un instant, nous reviendrons sur le Mali, où la conférence d'ailleurs des chefs d'État de la CEDEAO, la visioconférence, a débuté. Mais d'abord, direction la Côte d'Ivoire, ou plutôt direction le Burkina Faso, pour parler de l'actualité ivoirienne. Richard, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie Hartmann.
Bonjour Richard Zongo, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ivoirienne de cette semaine?
Ce qui m'a marqué dans l'actualité ivoirienne de cette semaine, c'est la candidature du président sortant Alassane Dramane Ouattara. C'est lui-là même qui était sorti devant le Parlement et qui a annoncé aux yeux de la communauté internationale qu'il n'allait pas se représenter. Et qui vient quelques mois plus tard faire la volte-face en disant qu'il sera candidat. Et c'est suite à cette annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle qui a entraîné toutes ces émeutes qui viennent de survenir cette dernière semaine à Abidjan, qui a endeuillé plusieurs personnes et laissant le désarroi dans la population ivoirienne. Parce que au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir. La Côte d'Ivoire a déjà connu un moment, a déjà traversé du moins un moment très, très, très pénible de son histoire suite aux élections présidentielles de 2011 et qui a plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Et Dieu merci, et tout est rentré en ordre et que la Côte d'Ivoire avait retrouvé sa stabilité comme il se doit. Et c'est soi-disant Alassane, on ne sait pas, un troisième année. C'est lui qui est sorti dit aux yeux de la communauté internationale qu'il ne sera plus candidat. Et qui revient faire la volte-face, dit qu'il sera candidat. Et il y a eu des manifestations en Côte d'Ivoire. Et il y a déjà des morts. Et nous ne sommes même pas encore arrivés aux élections présidentielles. Où ira la Côte d'Ivoire si vraiment on arrive aux élections? Il faut que les présidents africains vraiment apprennent à être sérieux, à être responsables, puisque ça dénote qu'ils ne sont pas venus pour la population. Ils sont venus rien que pour leurs propres intérêts. Si vous êtes sortis, vous dites que vous serez candidat et qu'il y a des manifestations, c'est-à-dire que le peuple n'a plus besoin de vous. Il faut vous retirer sagement. Et calmement pour laisser la Côte d'Ivoire dans sa stabilité. C'est lui qui était venu, il a commencé à reconstruire la Côte d'Ivoire que lui-même il avait détruit suite aux élections de 2011. La Côte d'Ivoire a commencé à se reconstruire et tout le monde appréciait et ce président-là, c'était un démocrate. Si encore il sort, on dit qu'il sera encore candidat et qu'on est en train de brûler encore la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé à Benoît, à Daoukouro et autres. Les gens sont en train de s'entretuer et ils veulent encore détruire la Côte d'Ivoire.
D'ailleurs,
c'est vraiment c'est lui qui a amené la rébellion en Côte d'Ivoire.
C'est très clair. Richard, on a bien compris que pour vous, Alassane Ouattara était responsable de cette situation et de ces violences. Amnesty International a republié aujourd'hui un communiqué pour s'inquiéter de la situation. Et dans ce communiqué, on peut dire notamment ceci: en arrêtant de façon arbitraire des voix dissidentes, les autorités ivoiriennes restreignent abusivement la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Toutes les personnes arbitrairement détenues doivent être immédiatement libérées, a déclaré Samira Daoud d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Richard d'avoir ouvert ce débat sur l'actualité ivoirienne et la candidature d'Alassane Ouattara. On va écouter Jean-Jacques. Jean-Jacques, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour monsieur Jean-Jacques. Alors vous avez entendu Richard, c'est cette actualité-là qui vous a marqué aussi?
Mais beaucoup plus. Il y a beaucoup à dire, mais comme je ne suis pas seul, je vais dire juste un mot. Alors, moi, je voudrais parler des bruteurs, excusez-moi, de ceux qui, les griots qui crient à piquette ceux qui embêtent la pauvre femme de Gbagbo, qui s'appelle Yves Simone Gbagbo.
Qui s'embête sur Internet ou en vrai?
Non, en vrai. Parce que j'ai entendu les Adjumani, les Bigoto, non, Bigoto, je ne sais pas si
Bigtogo.
Madame
à Bigtogo.
Voilà, tous ces gens-là qui laissent la pauvre femme tranquille, elle est fatiguée. Ils se disent qu'ils sont sortis d'une femme. Et là, on ne peut pas, à ce point-là, beaucoup emmerder une femme. Elle a déjà fait des prisons, elle a déjà été humiliée, et puis maintenant qu'elle est là, toute pensive, d'où elle vient, trop loin, mais où elle va, mais plus loin. Alors, je voudrais bien qu'on la laisse un peu tranquille.
Un auditeur, cette semaine, avait déposé un message en disant qu'il appelait Simone Gbagbo à se présenter. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, elle ne va pas se présenter. Elle ne va pas se présenter. Elle ne va pas se présenter. Je suis sûr, je connais bien sa température. Je connais bien, elle ne peut pas se présenter. Parce que même tous ceux qui se présentent là, je me dis qu'ils ne devaient pas se présenter. Que ce soit Bédier, et surtout, comment on l'appelle, Afin Guessant, qui lui, je ne sais pas s'il est pour... Il fait ce jeu-là, pour, je ne sais pas, pour, il n'est pas opposant. Il n'est pas du tout, ce n'est pas un opposant qui est là.
Pour vous, c'est un allié, si j'entends bien, objectif du pouvoir. D'ailleurs, Simone Gbagbo a annoncé qu'elle ne reconnaissait pas Pascal Afin Guessant comme candidat du Front populaire ivoirien. Merci beaucoup, Jean-Jacques, de votre contribution. Dans ce contexte, on va écouter Oumsé. Oumsé, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, Oumsé. Alors, est-ce que vous êtes en mesure d'enlever votre kit main libre?
D'accord, donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
Je vous donne un instant, c'est gratuit.
Là, c'est bon ?
C'est très bien.
Oumsé, vous m'entendez bien ?
On vous entend très bien. Oumsé, vous voulez lancer un appel à la paix ? Je le lisais tout à l'heure, le communiqué d'Amnesty International qui s'inquiète.
Oui, parce que moi, je ne suis pas politicien et je ne serai pas politicien. Mais c'était pour juste dire à la population ivoirienne, pour qu'ils puissent s'entendre, parce que moi-même, je suis Doula et il y a deux enfants qui ont été trouvés avec des bêtés. Donc, quand je regarde que la population est en train de s'entretuer, parce que j'ai vu une vidéo qui fait 4 jours de cela, qui est Don Giovanni. Les peuples Dida n'ont qu'à attaquer les Djoula, les Djoula n'ont qu'à attaquer les Dida. Donc, je vois qu'il est en train de pousser les gens à une guerre civile. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup dérangé. Parce que ce que la Côte d'Ivoire a subi aujourd'hui, nous, qui étions en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé. Donc moi, je dis quand on parle de la politique, je m'éloigne de la politique. La population qui est en train de s'entretuer, ils gagnent quoi en fin de compte? Aujourd'hui, ils ont cassé les magasins, ils ont cassé les maisons. On n'est pas en Europe. Ici, tout est sécurisé. Ici, tout est assuré. Ça se casse, c'est l'assurance qui prend. Mais en Afrique, ça n'existe pas. Vous dites non, quand l'assurance va prendre ça là, il va faire ça pour toi, ça n'existe pas. Quand le feu va prendre, tant pis pour toi, c'est toi-même qui dois reconstruire ta vie à zéro encore.
Donc moi, qu'est-ce qu'on fait, Oumsé, selon vous, pour que le feu ne prenne pas, justement? On accepte les candidatures de chacun, on y va malgré tout dans la paix et la sérénité?
La paix et la sérénité. Aujourd'hui, Madame Stéphanie, je vous dis, quand moi j'ai regardé la Côte d'Ivoire, j'ai mal. Et c'est pourquoi j'ai dit j'ai mal. Moi, j'ai subi des tortures en Côte d'Ivoire. Mais moi, ça ne me regarde pas parce que j'ai vu que la politique, c'est zéro. Moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai pris Dieu, ma Côte d'Ivoire n'a qu'à être la Côte d'Ivoire de la paix. C'est tout ce que moi, je veux. Parce que quand je regarde, on dit, on a tué celui-là parce qu'il est de telle étude. On a tué celui-là, il est de telle étude. Moi, mes enfants, ils vont leur dire quoi alors? Parce que moi, je suis du là.
Et ta mère, vous avez des enfants bêtés, si j'ai bien compris. Voilà.
Donc, voilà, sa mère est bêtée. Il y a deux enfants, des mères bêtées différentes. Donc quand je regarde, les gens disent ça, on va tuer lui. Mais on est en train de s'entretuer pour gagner quoi? C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas tuer un Djoula que tu tuerais un héros. Non! C'est pas parce que tu as tué un béton aujourd'hui que ouais, vraiment ils vont dire celui-là, tu es un béton aujourd'hui, attends, on va le décorer. Non! C'est une guerre en nous-mêmes. C'est pas une guerre qui vient du Burkina, ni du Mali, pour dire aujourd'hui tu es mort de cette guerre, tu es un héros. Non! Donc vraiment, j'aimerais dire à mes frères et sœurs ivoiriens qui m'écoutent, je vous en prie, cette guerre-là, on ne gagne rien dedans. On a subi pendant les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, les 10 ans, ça doit nous apporter des leçons. On a fait une guerre au moment de la rébellion avec Bédier. On a fait deuxième guerre avec Gbagbo. C'est la troisième nous voulons aujourd'hui. Il y a toujours 3-4 chances dans la vie. Si les 3-4 chances nous ont échappé,
on verra notre Côte d'Ivoire, mais moi, je ne prie pas Dieu pour ça.
Merci,
parce que si la Côte d'Ivoire est en genoux, nous tous, on sera en genoux. Nous qui sommes en Europe ici, qui est en train d'inciter les jeunes, prenons la route, allez attaquer celui-là, allez attaquer celui-là. Pourquoi eux-mêmes ne mettent pas les poids
Même Oumse, on le dit souvent hein, sur cette antenne aussi, hein, il faut se méfier de toutes ces vidéos que certains sombres individus font depuis le fin fond de leur appartement en Île-de-France hein, pour effectivement peut-être inciter à la haine. Hein, voilà, il faut aussi se méfier de tout ce qu'on trouve hein, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Oumse. Je vous presse un peu. Vous savez, c'est la libre antenne. Vous êtes nombreux à vouloir participer. Mais je pense hein, que votre appel à la paix est passé. Excellente journée à vous, mon cher Oumse. Dans un instant, quelques minutes, une minute, deux minutes, trois minutes, on parle du Mali. Avant ça, on clôt ce sujet Côte d'Ivoire avec Samou. Samou, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Atman.
Bonjour, Monsieur Samou. Vous vouliez revenir hein, sur la candidature d'Alassane Ouattara. Pour vous, elle est légitime, à défaut peut-être d'être légale.
Oui, elle est légitime, puisqu'on a une constitution qui permet à M. Alassane de se présenter et que le Conseil constitutionnel doit, qu'on appelle, va valider ça, c'est obligé, ils vont valider déjà. Et puis j'aimerais dire, en fait, l'opposition, ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont rien. Eux, c'est leur, qu'on appelle, c'est leur plan de bataille. Faire sortir les jeunes, se tuer, après montrer aux yeux du monde entier, Alassane, son pouvoir tue les jeunes et tout, pour créer une meute en Côte d'Ivoire. C'est la stratégie des opposants, ça. Ils n'ont pas d'arguments. Donc, c'est ce qu'ils font.
Si je peux me permettre, Samou, quand on voit un peu les craintes des uns des autres, les tensions à Divo, à Benoît, est-ce que finalement, ce n'est pas un échec aussi d'Alassane Ouattara de ne pas avoir réussi, durant ces deux mandats, à apaiser, ce qu'on appelle réconcilier les Ivoiriens?
Vous avez cité deux villes, Benoît et Divo. Donc, essayons de voir un peu la configuration de ces deux villes-là. En fait, c'est ça en fait le problème. Il faut voir ce qu'on appelle la configuration de ces deux villes. Ce sont des villes. Benoît, c'est chez Mme Simone Évêque Bagbo. Et Divo aussi, c'est un fief du FPI. Donc, la Côte d'Ivoire, elle est grande. Pourquoi c'est ça, de ces deux villes, il y a eu des affrontements sanglants? C'est ça en fait. Parce que là-bas, la manipulation a pu prendre. Et qu'il y a des jeunes qui se sont mis dans le mouvement pour
vous, hein, la violence est du côté de l'opposition, c'est ce que vous dites,
Samou. Oui, de l'opposition, ben oui, à Yopougon aussi, c'était le qu'on appelle une des bases du FPI. Ils incitent les jeunes à se tuer, à ensuite branler les morts, compter les morts aux yeux de l'opinion internationale. C'est leur stratégie, et ils vont continuer dans ça. Mais les autres aussi ne vont pas se laisser massacrer. Ça, c'est normal. Ils ne vont pas se laisser massacrer, ils vont se défendre.
À ce tarif-là, mon cher Samou, voilà, on peut se demander d'ailleurs hein, ce que font les forces de sécurité et de défense, hein, dont la mission principale hein, est de protéger la population, peu importe d'où elles viennent. Merci beaucoup, Samou, de votre participation. Je vous informe qu'on clôt ce sujet sur la Côte d'Ivoire. On aura bien sûr hein, l'occasion d'y revenir. On aborde tout de suite le Mali. On se rend du côté de Soninkéni. Le village natal de M. Kanoumé. Kanoumé, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour toutes les rédactions du Journal d'Afrique, ça fait longtemps. Hein.
Ça fait très longtemps, M. Kanoumé, bienvenue dans le Journal des auditeurs. Vous allez nous parler un peu de la situation au Mali, le Mali, hein, où il y a eu un renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali actuellement sous sanction. Que pensez-vous de tout cela, mon cher Kanoumé?
Voilà, effectivement, c'est que le message que je lance sur votre page Facebook, c'est par rapport à, ça fait plusieurs longtemps que je parle affaire de pouvoir du BK, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde a vu la réalité. Donc, à un moment, j'ai dit, IBK ne vient pas diriger le pays. Donc, d'aujourd'hui, si les M5S ont fait l'aide de marché et puis les militaires ont venu fermer leurs travaux, donc je pense qu'ils ont fait les coups d'État sans vraiment tuerie, donc sans verser le sang de la population. Je pense que cette coup d'État, vraiment, ça a reçu donc, dans le monde entier. Donc, le monde va expliquer dans l'histoire d'aujourd'hui par rapport à la crise politique malienne. Mais je veux dire, quand vraiment les médiations de CDAO et puis la sanction qu'ils ont prise contre le Mali, je pense que nous, les Maliens, on n'a pas peur de leurs sanctions parce que sans la CDAO, je pense que le Mali veut vivre. Donc, d'aujourd'hui, ils ont pris leurs sanctions, mais on peut féliciter les présidents sénégalais qui ils ont dit que nous, avec le Sénégal, c'est le pays frère, donc lui ne peut pas fermer sa frontière. Donc il y a des camions qui sont en train de transporter les marchandises à chaque jour. Même, voilà, tout de suite, ici au bord de la route, il y a des camions sénégalais qui sont en train de porter les marchandises la nuit comme la journée, donc pour rentrer à Bamako. Donc, je pense que vraiment, je félicite le président Macky Sall. Et puis, encore que vraiment, les militaires aussi, avec certaines personnes au Mali aussi, ils ont pris leurs sanctions contre CEDEAO. Donc, nos bétails ne peuvent pas sortir.
Alors ça, c'est pas vraiment une vraie information, Kanyoumé. Ce n'est pas le comité qui a pris la sanction de ne plus exporter le bétail. C'est le patron, le patron lui-même des exploitants qui lui, a refusé.
Voilà, effectivement. Oui. Donc, on va voir maintenant ce qui se passe entre nous, vraiment CEDEAO. Donc, ici, ils ont pris leurs sanctions aussi. Au moins, c'est le patron aussi a pris la décision. Donc, aujourd'hui, il faut imaginer la conséquence aussi en train de monter sur la Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, un kilo de viande en Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est 6 000 francs. Donc, il faut imaginer. Donc, vraiment, entre nous, les pays, on ne peut pas faire quelque chose sans être aide vraiment par rapport à les marchandises. Donc, si Côte d'Ivoire a fermé sa frontière, je pense que ça joue dans l'économie de Côte d'Ivoire aussi, surtout au Mali aussi.
Toute l'économie ouest-africaine est touchée.
On va voir ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et Mali aussi.
C'est ce que disait Chérif Haïdara, excusez-moi, je vous presse un peu, Kanyoumé, mais le temps passe vite. C'est ce que disait Chérif Haïdara, que finalement, cela risque aussi d'être le port d'Abidjan qui reste être le plus touché par ces sanctions et cette fermeture des frontières. Merci beaucoup, Kanyoumé, d'avoir ouvert le sujet Mali. Excellente journée du côté de Sonine Kenny. On salue d'ailleurs tous les habitants. Puis cette information, plutôt cette déclaration à l'ouverture de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, président du Niger, a eu ces mots. Pour un pays, le putschisme est une grave maladie. Pour en guérir, une seule ordonnance, les sanctions. Elle est certes amère, mais n'en est-il pas ainsi en médecine pour beaucoup de maladies? C'est ce que notre organisation commune a compris. Alors, la CEDEAO va-t-elle persister à sanctionner le Mali? On va écouter, dans l'ordre d'inscription, vous m'en excuserez, Ahmed. Ahmed, bonjour.
Bonjour, Madame Tiffany.
Bonjour, Monsieur Ahmed.
Oui, je serai très bref. En fait, moi, je reviens sur le coup d'État de Mali parce que, en fait, coup d'État, ils sont pas crédibles, en fait, de faire coup d'État contre M. Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, en plus, tout ce qu'ils ont fait, le coup d'État, quand on dit l'opposition, c'est des gens qui étaient avec Ibrahim Boubacar Keïta. Mais quand Ibrahim Boubacar Keïta il commençait à se mettre en place pour bien travailler, et ils ont vu que vraiment, s'il ne fait pas quelque chose contre M. Ibrahim Boubacar Keïta, et tout cela, il sera arrêté. Pourquoi j'ai dit ça? Et toutes les positions qui se levaient pour dire que Ibrahim Boubacar Keïta, Ibrahim Boubacar Keïta, le mot il me manque en fait.
Ce qui se confond bien s'énonce clairement. Ahmed, finalement vous dites il y a eu tout un mouvement de lutte anticorruption, c'est peut-être ça qui a poussé ses opposants à craindre.
C'est même pas ça. Première chose déjà, tous les présidents qui sont partout, qui sont passés au Mali, et c'est M. Ibrahim Boubacar Keïta qui a bien travaillé plus que tous. Bon. Ça se voit. Hein.
Bon. 2013, bon. Quand il était... Apparemment, les Maliens n'ont pas bien vu. Hein.
2013, quand il est arrivé au pouvoir, il n'y a même pas l'armée qu'ils ont détenue. Ils n'ont même pas les chaussures. Tout le monde a bien vu. Hein. Donc, je sais de quoi que je parle. Et aujourd'hui, quand ils commençaient à s'attaquer à cause de corruption, tous les grandes personnalités qui étaient là-bas, qui sont en train de faire l'emploi affectif, il touche l'argent. C'est ça que M. Ibrahim Boubacar Keïta, son deuxième mandat, là, les deux ans là, qu'il a fait là, ils sont attaqués à eux. Tous ceux qui sont extérieurs du pays, qui sont en Europe ici, avant, les gens, ils étaient escroqués, ils bouffaient ton argent. Tu as besoin d'un lot pour
On a bien compris, Ahmed, que finalement, voilà, selon vous, Beka a tellement bien travaillé. Que cela a effrayé les militaires, si j'ai bien entendu, si je peux raccourcir ainsi votre pensée, mon cher Ahmed, merci beaucoup. On va écouter Koulibaly, monsieur Koulibaly plutôt. Bonjour, monsieur Koulibaly.
Bonjour Madame Atman, bonjour amis auditeurs du JDA.
Bienvenue dans le JDA, Monsieur Koulibaly. Vous êtes... Alors, il manque un mot dans ma petite fiche, mais je pense le deviner. Je vous voulais carrément que le Mali quitte la CEDEAO.
Oui, c'est ce que je disais, mais je saute un peu sur Ahmed qui vient d'intervenir tout de suite là, en disant le bilan de IBK, c'est vraiment un bilan catastrophique pour le Mali. Depuis 7 ans, il y a 40% du budget national qui est alloué à l'armée. Donc, vous voyez bien, après la chute de IBK, vous voyez la situation sécuritaire au Mali. Qu'est-ce que l'armée est en train de faire présentement ? Sur les bases terroristes qui sont détruites, il y a plus de 700 terroristes qui ont été tués la semaine dernière. Donc, vraiment, défendre le bilan de IBK ou...
D'ailleurs, on peut signaler le rapport du bureau du vérificateur général qui pointait plutôt des détournements au sein du ministère de la Défense sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta.
Le fils du président est impliqué dedans.
Karim Keïta qui se trouve en Côte d'Ivoire.
Voilà, exactement. Donc, je voulais parler par rapport à la CEDEAO parce que je pense que le Mali doit se retirer de cette instance puisqu'il y a deux poids, deux mesures. Alassane Ouattara, sans parler de la Côte d'Ivoire vraiment, a été installé au pouvoir, c'est un coup d'État. Parce qu'en matière d'élection présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle qui a le contentieux électoral, qui avait déclaré Gbagbo gagnant. C'est exactement le cas du Mali. Mais on l'a installé. Et pourquoi les sanctions contre le Mali aujourd'hui? Parce que nous, la deuxième élection de IBK, tout le monde sait que c'est faux, il n'a pas gagné. Il a été installé par la Cour constitutionnelle. Donc, vraiment, que la CEDEAO prenne ses sanctions. Il y a deux poids, deux mesures, quoi. C'est ce que je veux dire.
Deux poids, deux mesures. On pourrait le souligner avec la situation aussi en Guinée, où il y a une modification de ce qu'on appelle finalement un coup d'État institutionnel, constitutionnel.
Voilà, c'est pareil qu'en Côte d'Ivoire. C'est eux qui défendent IBK aujourd'hui. Et Alassane Ouattara et le président guinéen aussi.
Merci.
Donc, ils sont tous sur à la voie du troisième mandat. Et voilà, donc ils ne veulent pas que leur peuple se rébelle, se révolte. Et c'est anticonstitutionnel.
Anticonstitutionnel, M. Koulibaly nous dit. D'ailleurs, on peut signaler qu'il y a quelques temps, la CEDEAO avait adopté justement la limitation à 2 mandats comme une règle dans la sous-région. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Alors, il reste 4 minutes. Il y a Aruna qui s'est inscrit pour parler de Didier Drogba. On va l'écouter dans un instant. Puis s'il reste du temps, on reviendra sur le Mali. Avant cela, j'ai un petit message sur WhatsApp. Alors, je n'ai pas le nom... Si, c'est Mohamed qui nous envoie des photos, 4 photos, Modibo Keïta 68, Moussa Traoré 91, Amadou Toumani Touré 2012, IBK 2020, et avec ce commentaire Mohamed dit, pour moi, le Mali ne sera jamais stable. La liste que vous venez d'entendre, c'est bien sûr la liste des coups d'État qu'il y a eu au Mali. Voilà, alors finalement on peut se demander s'il n'y a pas que une transition avec Alpha Oumar Konaré qui a été une passation de pouvoir apaisée. Direction le Sénégal. Aruna, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, Aruna. Vous vouliez revenir sur ce rejet de la candidature de Didier Drogba. Nul n'est prophète en son pays, il faut croire.
Oui, bon, comme dit l'adage, ouais, nul n'est prophète dans son pays. Mais bon, je pense bien que Didier Drogba ne mérite pas vraiment un tel sort, je veux dire. Parce que vu que ce qu'il a donné à son pays en matière footballistique, même en matière de, comment dire, dans le cadre social aussi, il méritait vraiment ce poste de responsabilité en tant que président de la Fédération Ivoirienne de football. Alors, voir sa candidature rejetée, moi, je pense que c'est, comme je l'ai dit, vraiment, c'est une insulte à la morale de tous les amateurs du football. Parce qu'aujourd'hui, il faut, comme on le dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, bon, je pense que Didier Drogba n'est pas un novice dans le métier du football. Il maîtrise le football et il a aussi des connaissances dans le domaine. Et il a des partenaires. Je pense que c'est quelqu'un qui pouvait vraiment relever le niveau de défi, le niveau du football ivoirien en quelque sorte. Mais bon, malheureusement, puisque je ne sais pas s'il y a de la politique dedans ou pas, en tout cas, on attend d'ici les 5 jours parce qu'il va déposer un recours, je ne sais pas. Bon, on attend si vraiment sa candidature n'est pas recevable. On saura net que vraiment ce sera un recul dans le cadre de la Fédération ivoirienne de football.
C'est très clair, Aruna, effectivement, difficile de comprendre hein, ce rejet de la candidature. Il semblerait hein, que les parrainages hein, que Didier Drogba ait recueillis ne sont pas valables. On aura l'occasion hein, d'en reparler tout à l'heure dans le journal des sports à partir de 17h, heure de temps universel et heure d'Abidjan. Voilà. Pour finir sur le Mali, il me reste une minute. Il y a Drissa qui attendait. Drissa, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Drissa.
J'avais beaucoup à dire, mais bon, j'y vais aller très rapidement. Du coup, alors, je voulais juste revenir sur le coup d'État au Mali. Je voulais juste interpeller nous, les Africains. Il ne faut pas qu'on soit limité à soit condamner ou accepter un coup d'État. Je pense que la démarche scientifique aimerait qu'on analyse un peu les coups, les raisons, en fait, des choses. Pourquoi on est arrivé là? En fait, comment Ibeka a géré le pouvoir au Mali? Quelle était vraiment la motivation, en fait, de la descente de la rue, hein, en fait, des personnes dans la rue? Et qu'est-ce qui a fait que l'ensemble, en fait, ou majoritairement les Maliens ont cautionné et accepté ce coup d'État? Donc, je pense qu'il faut aller plus loin que ça, quoi. On ne peut pas se dire que, ben non, le coup d'État est condamné ou accepté. Et sans regarder ce qui s'est passé, les détournements qui sont passés, vous avez évoqué. Ibeka et sa famille, ils ont détourné des sommes, plus de 1200 milliards qui ont été votés pour la loi de programmation militaire. Et on nous a dit après qu'il y a des avions qui ont été achetés, des avions de guerre qui n'ont pas pu décoller. Je me dis, mais on est à quel siècle? Comment on peut acheter des avions qui coûtent des milliards et dire d'ailleurs que ces avions n'ont pas pu décoller? Mais je pense qu'ils prennent des gens pour des cons, en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de respecter l'ordre institutionnel comme dans tous les pays développés. Nous, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a des préalables qui doivent être acquis. On doit avoir à manger, on doit avoir la sécurité. Merci. On doit avoir de quoi quand même s'occuper de la population.
Et
les
prisons,
il faut les dégager.
Merci Drissa. Excusez-moi, je voulais vous interrompre, mais on a bien compris hein, que vous vous appeliez hein, peut-être à penser subtilement et que les choses n'étaient pas toujours toutes noires ou toutes blanches. C'est la fin de cette émission. Merci à tous hein, de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Lundi, nous aurons un invité. Il s'agira de Mamadou Touré, porte-parole du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et pour vous inscrire, laissez un message et votre question, c'est mieux, sur le répondeur d'Africa Radio. Notez bien le numéro, c'est le 33 1 55 07 58 05. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à l'écoute d'Africa Radio.